Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, Mel Emmanuel.
Vous êtes sur Radio de la Paix, vous faites bien, c'est l'heure du journal. La reconversion, deuxième chance pour le militaire et le gendarme en fin de carrière. C'est le thème des journées carrières pour informer les militaires et gendarmes sur les opportunités qui s'offrent à eux après leur carrière dans l'armée, une initiative du Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires. La Fédération nationale des coopératives et unions de coopératives des planteurs de palmiers à huile de Côte d'Ivoire annonce une grève à partir de ce lundi 23 octobre au motif de la non-application des prix fixés par l'État en matière de commercialisation des régimes de graines de palme. Vous aurez dans ce journal les propos de leur président de conseil d'administration. Hors de chez nous, les États-Unis ordonnent l'évacuation du personnel non essentiel de son ambassade en Irak suite à 5 attaques de drones ayant visé des bases irakiennes abritant des troupes américaines et étrangères dans l'ouest du pays. Le parcours des titres de la presse ivoirienne dans ce journal sera l'affaire de Francis Cassi. Enfin, les forces et les faiblesses du PPACI seront abordées avec le professeur Simplice Dion. Il est politologue et il intervient dans le cadre de l'invité de la rédaction. Bonjour et bienvenue. Le Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, BARM, a organisé du 19 au 20 octobre 2023 au 2e bataillon de Daloa des journées carrières autour du thème « La reconversion, deuxième chance pour le militaire et le gendarme en fin de carrière ». Les gendarmes et les militaires ont saisi cette occasion pour mieux s'informer sur les opportunités offertes après leur carrière militaire, la fonction publique, les emplois salariés du secteur privé et la création de leur propre entreprise. Compte rendu, Jean-Noël Kouamé.
Le colonel Aké Danho Stéphane, chef du bureau d'accompagnement et de reconversion des militaires, explique l'opportunité de ces journées pour les militaires en fin de carrière.
Ces journées de carrière, ce n'est pas une exhortation à quitter les effectifs des armées, mais plutôt à se préparer à affronter la vie post-carrière. D'abord, il faut être en fin de carrière. Vous partez soit à la limite d'âge, par départ volontaire, soit pour raison de maladie, mais pas pour révocation. Au bureau de reconversion, nous analysons votre démarche. Nous faisons des propositions d'insertion. Nous vous confions aux partenaires pour vous accompagner. Pour un emploi salarié, nous négocions l'insertion avec les entreprises. Il y a un décret qui permet aux militaires d'intégrer la fonction publique dans le cadre de la reconversion avec certains profils.
Plusieurs partenaires ont entretenu les gendarmes et les militaires sur le mode opératoire et les domaines de reconversion.
Claudio Henriette, à GIFOP, nous avons fait la formation en entrepreneuriat et les projets sont déposés au FIDRA qui finance ses activités dans le domaine de la menuiserie, mécanique générale, développement des caves, location de bâches, de chaises, panneaux solaires, restauration, vente d'accessoires de véhicules, d'eau minérale. Et ceux qui ont été financés, ça marche.
Yao Marie Yolande, Institut Ivoirien de l'entreprise. On installe l'entreprise au niveau de la gestion. Nous sommes avec eux et un an après, on va les laisser s'envoler de leur propre scène.
Divers autres partenaires, l'ANADER et l'Agence Emploi Jeunes, notamment, étaient à ces journées carrières pour accompagner et préparer les militaires en fin de carrière vers la vie civile. Jean-Noël Kouamé, Daloa, Radio de la Paix.
Le vendredi 20 octobre dernier, plus de 1500 kits ont été distribués par le conseil régional du Poro aux élèves du CP1 au CM2 du groupe scolaire Nanguin de Korogo au titre de l'année scolaire 2023-2024. Ce geste s'inscrit dans la vision du dit conseil, à savoir accorder une attention particulière à l'éducation nationale, également à la formation professionnelle. Témoin pour Radio de la Paix, Marcel Bonny.
La distribution de kits scolaires est certes un appui pédagogique, mais bien plus encore, selon Fidèle Sarasoro, président du conseil régional du Poro.
Les kits scolaires contribuent, et ça a été prouvé à la suite de plusieurs évaluations, fondamentalement et durablement à la qualité de l'éducation nationale. Et chaque année, lorsque en début d'année scolaire, le gouvernement met à la disposition des régions ces kits scolaires, c'est une façon de dire que le gouvernement est soucieux de l'avenir des enfants et l'avenir de la nation.
Dans la même logique, Traoré Ibrahima, directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, précise.
Ces kits constituent des outils indispensables pour un apprentissage de qualité. Chers élèves, chers parents d'élèves, chers collègues enseignants, l'heure n'est pas au discours, l'heure est à l'action.
Une action qui se traduit par un engagement des élèves à travers leur porte-parole.
Quadio Marie Oren, j'ai 11 ans, je suis en classe de CM2. Nous
Rappelons que ce sont au total 158 722 kits scolaires qui seront offerts gracieusement par l'État de Côte d'Ivoire aux enfants de la région du Poro, dont 117 349 pour le département de Korogo, 14 536 pour Mbengue et 14 752 pour Sinématiali. Marcel Boni, Korogo, Radio de la Paix.
Atelier de suivi de la mise en œuvre du plan d'opération de direction de la zone sud-ouest pour le troisième trimestre. C'est le thème d'un séminaire d'une durée de 2 jours qui s'est tenu à Guiglo dans la région du Cavali. La rencontre a réuni plusieurs experts et personnes ressources de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Dans la région du Tonkwi pour Radio de la Paix, Stéphane Adams.
Ces 2 jours de travaux pour la pérennisation du parc de Taï, la population riveraine ont exprimé leurs préoccupations. KIB Robert, porte-parole.
Le parc national Taï. Je suis inquiet sur 2 fronts parce que si on ne fait plus les lions, quelqu'un peut aller faire de n'importe quoi dans le parc pour dire qu'il n'y a pas eu de lions de limitation. Et ça, c'est un problème. Deuxième préoccupation, c'est aussi nos forces, on ne les voit pas dans les villages. C'est pas seulement dans le parc. Or, les braconniers sortent des villages pour aller dans le parc, pour aller braconner. Les agents que nous avons qui viennent un peu dissuader dans les villages.
Le lieutenant-colonel Issa Diarasouba, chef de la cellule de contrôle de planification de l'OIPR, s'est félicité des avancées notables de la protection du parc pour le troisième trimestre de l'année 2023.
À cette étape donc de l'année, au terme du troisième trimestre 2023, nous avons noté avec satisfaction une performance de 79%. En termes de perspective, nous allons élaborer le plan d'action pour l'année 2024 qui va s'organiser autour, à savoir la protection, le suivi écologique et la recherche, l'écotourisme, le management et puis l'appui aux populations de la périphérie.
Représentant le préfet de région du Cavali, Assé Kounan Abel, en fin de rencontre.
Chacun à son niveau a apporté sa pierre à l'édifice pour la qualité des travaux. Au nom de monsieur le préfet, je voudrais remercier chacun d'entre vous. Dis aussi merci aux partenaires financiers de continuer de soutenir la direction pour une gestion efficiente.
Cet atelier a regroupé 37 participants venus de 8 localités du pays. Stéphane Adams, de retour des Guiglo, Radio de la Paix.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Abidjan Legacy Program, qui a pour but de restaurer les écosystèmes dégradés en vue de l'augmentation exponentielle de la production agricole et de l'amélioration des conditions de vie des populations des zones rurales, une équipe de l'unité de coordination de cette structure gouvernementale a entrepris une mission de terrain depuis le lundi 15 octobre 2023 dans les régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué, afin d'identifier les sites propices à sa réalisation. Écoutons les précisions du coordinateur du projet, Abidjan Legacy Program, Abou Bamba, au micro de Marcel Boni.
La région dispose des atouts naturels, donc notamment les terres, près de 17 000 à peu près kilomètres carrés. Donc nous sommes allés dans les départements de Korogo. L'eau est là, les jeunes sont là, les terres sont disponibles. Donc nous pensons que nous devons être en mesure de pouvoir nous déployer très rapidement. Ensuite, pour la région de Sinématiali, nous avons identifié aussi 3 sites. Donc sur les 2 départements, c'est pas les terres qui manquent, les terres sont disponibles. Les populations aussi ont accepté de mettre à disposition leurs terres. Il s'agit de projets pilotes afin de pouvoir très rapidement monter en échelle. Nous arrivons à la conclusion que tous les éléments sont là pour qu'on puisse faire encore du Poro le grenier de la Côte d'Ivoire, que ce soit pour le maïs, que ce soit pour le mil, que ce soit pour le manioc, certains tubercules, et même pour le poisson. Le Bandama est un des plus grands fleuves de Côte d'Ivoire, et il est possible effectivement de l'empoisonner, ou bien empoisonner les affluents ou les retenues, les barrages que nous avons, même si nous venons avec la mécanisation. Mais la mécanisation n'exclut pas le travail, et nous allons créer beaucoup d'emplois autour de cette mécanisation, autour de cette transformation, autour de la mise à disposition, effectivement, des intrants agricoles et de la formation à l'utilisation de ces intrants agricoles et la science et la technologie sur les drones, l'utilisation des drones, afin que les jeunes de la région puissent être en mesure de piloter des drones planteurs pour l'épandage des produits, pour le semis et puis pour la surveillance aussi des cultures.
Non-application des prix fixés par l'État en ce qui concerne la commercialisation des régimes de graines de palme, les membres de la Fédération nationale des coopératives et unions de coopératives des planteurs de palmiers à huile de Côte d'Ivoire projettent une grève pour dénoncer l'attitude des membres du collège des usiniers qui refusent de payer les prix annoncés par le conseil EVA palmiers à huile. Selon Constantin Codio, président du conseil d'administration de la FENA Copassi, à partir du lundi 23 octobre 2023, les producteurs de palmiers à huile, en signe de protestation, vont bloquer les voies d'accès aux usines si rien n'est fait. Nous l'écoutons.
D'abord, ça a commencé depuis juin. Vous savez que quand les prix étaient à 140 000, l'État avait plafonné. Donc les producteurs percevaient 80 000 par tonne. Et on leur avait dit que si les prix chutaient sur le marché, on allait maintenir le prix à 80 000. Quand le marché a commencé à s'effondrer, ils sont revenus pour nous dire d'appliquer le mécanisme, ce qui est déjà contraire à ce qui avait été dit, puisque le mécanisme donnait un montant bas. Bon, comme c'est l'État, les producteurs ne pouvaient faire autrement, donc le producteur a accepté pour appliquer le mécanisme. Trois mois après, les agros disent que le mécanisme ne les arrange pas, parce qu'ils n'arrivent pas à vendre et tout ça. Donc, en l'application du mécanisme, les producteurs devaient avoir 73 000, je crois, 80 francs, la tonne de régime. Et les agros disent qu'ils ne peuvent pas payer, qu'ils vont payer à 61 000. Les producteurs disent qu'ils ne peuvent pas continuer à perdre de l'argent comme ça. Donc, l'État a été informé par le biais du Conseil EVA Palmier, qui a coupé la poire en deux. Quand bien même les producteurs n'étaient pas d'accord, mais comme c'est la voie de l'État, ils ont accepté les 68 000 que le Conseil leur proposait par rapport à la situation du terrain. Les agros maintenant ferment les usines pour dire qu'ils ne peuvent pas payer à ce prix-là, donc eux, ils arrêtent de recevoir la production des plantations villageoises. Il y a des usiniers qui ont des plantations et ils ferment, puis bon, et ils travaillent tranquillement. Les producteurs disent qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'on ferme les usines pour les plantations villageoises et que les plantations d'usine doivent travailler, ils ne sont pas d'accord avec ça.
Alors, quelles sont les solutions envisagées à part la grève?
Oui, mais c'est de demander à l'État de contraindre les agros à payer le prix qui revient aux producteurs. Mmh. C'est juste ça.
Nous écoutions Constantin Kodjo, président de la FENA Copassi, joint par Jean-Claude Comé, qui, dans un souci d'équilibre, a joint également le président de l'Association professionnelle des sociétés agricoles de palmiers de Côte d'Ivoire, qui regroupe les industriels de première transformation. Mais celui-ci a préféré s'abstenir de tout commentaire et a suggéré à Radio de la Paix de joindre le responsable de l'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile, AIPH, qui regroupe tous les acteurs du secteur. Hors de la Côte d'Ivoire, les États-Unis ordonnent l'évacuation du personnel non essentiel de son ambassade en Irak. L'ordre avait été donné dès vendredi, mais il n'a été rendu officiel que dimanche. Le département d'État américain demande aux familles et au personnel non essentiel de sa mission diplomatique en Irak de quitter le territoire. Son site internet a aussi actualisé les recommandations aux voyageurs. Les citoyens américains sont désormais appelés à ne pas se rendre en Irak. Le niveau d'alerte est monté d'un cran, car en 4 jours, 5 attaques de drones ont visé des bases irakiennes abritant des troupes américaines et étrangères dans la province d'Al-Anbar, à l'ouest du pays, au Kurdistan irakien au nord et près de l'aéroport de Bagdad. De retour en Côte d'Ivoire, nous retrouvons Francis Cassi pour la revue des titres de la presse ivoirienne. Bonjour Francis.
Bonjour Mel Emmanuel, bonjour à tous. Un président pour le PDCI après le décès d'Henri Conan-Bédié. C'est par ce sujet que nous démarrons notre revue des titres des journaux de ce lundi. Congrès extraordinaire électif du 16 décembre, présidence du PDCI-RDA, voici le potentiel candidat. Annonce à ce sujet le nouveau réveil. Mais un de ces potentiels candidats serait Tidiane Thiam, à en croire le Bélier, citant le porte-parole de ce parti. Présidence du PDCI-RDA, Bredoumi Soumaïla, à propos de Tidiane. Il a le droit. Point de suspension. Entre-temps, se voulant dans le secret des dieux, l'héritage, lui, fait cette précision. Présidence du PDCI-RDA, présidentielle 2025, Tidiane Thiam, la dernière volonté de Bélier, avant que le concernant le jour plus ne barre ainsi sa une. Présidence du PDCI-RDA, voici ce que Tidiane Thiam et son équipe préparent. Et puis, par rapport au programme pour résorber le stock de personnes sans emploi ou mal insérées, Fraternité Matin nous apprend ceci. École de la deuxième chance, le gouvernement dresse le bilan, le Québec et la Guadeloupe intéressés. Et nous lisons toujours sur Fraternité Matin que pour ses actions humanitaires, Dominique Ouattara, la première dame ivoirienne, honorée. Le quotidien d'Abidjan, pour sa part, s'intéressant ce 23 octobre à la liste des différents chefs de gouvernement ivoiriens, indique Côte d'Ivoire, 63 ans d'indépendance, 10 premiers ministres. Enfin, terminons notre revue des titres des tabloïds de ce jour avec cette manchette de l'intelligent d'Abidjan quant à la substance ou drogue appelée Kadhafi, qui secoue, dit-on, le milieu des jeunes. Comment tuer Kadhafi sans traquer Tramadol ni interdire la vente et la production locale? Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci Francis Cassi. Rendez-vous dans l'édition de 8h pour une autre revue des titres. Place à l'invité de la rédaction. Notre invité ce matin, le professeur Simplice Dian. Il est politologue. Avec lui, nous évoquons les forces et les faiblesses du PPACI, le nouveau parti de Laurent Gbagbo qui a eu 2 ans le 17 octobre dernier. Le professeur Simplice Dian répond aux questions de Constant Maillet.
professeur Simplice Dion, bonjour.
Bonjour.
Le nouveau parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, le parti des peuples africains, a 2 ans. Alors, est-ce que ce parti peut être considéré comme un parti politique essentiel en Côte d'Ivoire ?
Le parti politique de Laurent Gbagbo, le PPACI, est à mon avis un parti essentiel en Côte d'Ivoire, pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que c'est le parti de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, qui est une figure historique et emblématique du combat pour le multipartisme dans notre pays. Et la deuxième raison, c'est que c'est le parti qui, aujourd'hui, porte la voix des sans-voix. Dans un contexte où l'hégémonie du RHDP est en train de chloroformer et de monochromatiser l'opposition, on n'entend plus tellement l'opposition sur des questions importantes. Il n'y a que le parti de Laurent Gbagbo qui essaie plus ou moins, chaque semaine, d'éveiller les consciences, de pointer du doigt un certain nombre de problèmes de société. Et il me semble que de ce point de vue, du point de vue de la prise de parole publique, le parti de Laurent Gbagbo est un parti aujourd'hui important, est un parti essentiel en dehors de la question de la représentation sociologique ou de la représentation en termes de députés ou de maires.
Alors, un parti politique a pour mission première la conquête du pouvoir d'État. Alors, selon vous, est-ce que le PPACI peut compter pour la présidentielle de 2025 ?
Je crois qu'il y a du travail pour le PPACI. Il y a du travail à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Et pour que le PPACI compte pour 2025, il faut d'abord redéfinir la vision du PPACI. Il faut un travail d'introspection. Il faut troisièmement que ce parti revoie son narratif et qu'il l'actualise. On n'est plus dans le contexte d'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. On est dans un contexte nouveau, avec des problématiques nouvelles, le monde qui bouge. Il est important que le narratif, le discours du PPACI s'actualise. Il faut aussi à ce parti un nouveau leadership, un leadership à construire à l'ombre de Laurent Gbagbo.
Au regard des résultats des dernières élections locales, régionales et municipales, le PPACI n'a obtenu que 6 communes. Dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous ?
Ce qui n'a pas marché, il me semble qu'on ne fait pas toujours attention à cela, c'est ce que j'appelle l'impossible retour. Vous voyez, il est plus facile de partir que de revenir, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Quand vous partez, vous laissez un contexte et les êtres et les choses se disposent. Et quand vous revenez, les choses ont changé. Il y a une bataille à revenir. Laurent Gbagbo part pendant 10 ans, il revient 10 ans après, mais les êtres et les choses se sont redisposés. Donc il ne retrouve plus sa maison comme il l'a laissée, il ne retrouve plus son parti comme il l'a laissé. C'est pour cela que je dis que il faut reconstruire le PPACI, faute de pouvoir le reconstituer. Il y a du travail à faire et il faut que très rapidement, le PPACI, avec Laurent Gbagbo comme moteur, se réorganise, revoit sa stratégie, reconsidère son discours, s'actualise. Et je pense que ce parti a les moyens de se réveiller véritablement.
Ce parti, le PPACI, a crié à la fraude à l'issue de ce scrutin. Et les réclamations auprès du Conseil d'État, il y en a eu 71 en tout. Est-ce qu'il n'est pas temps de tout remettre à plat au niveau de l'organisation des élections pour qu'il y ait au moins un minimum de consensus avant d'aller à des élections en Côte d'Ivoire ?
Il faut créer les conditions politiques d'une élection inclusive, faire en sorte que l'organe principal d'organisation de l'élection soit accepté par tous et acceptable pour tous. Et moi, je pense qu'on peut faire mieux.
Le PPACI entend tout mettre en œuvre pour obtenir la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Selon vous, comment l'on peut faire pour en finir avec cette question juridico-politique pour donner la chance à la paix en Côte d'Ivoire ?
La solution à ce problème est une solution politique. On sort toujours de ce genre de crise juridique et politique par la politique, c'est-à-dire par le dialogue constructif, par la concertation et par l'apaisement. La paix est au-dessus des exigences juridiques. Et s'il faut gagner la paix en traitant cette question juridique de façon politique, alors moi, je suis d'accord. Il faut donc que le PEPASI pose le problème de manière politique, diplomatique, et je souhaite que, en face, le gouvernement puisse répondre de façon politique et diplomatique pour que nous partions en 2025 dans la sérénité.
Professeur Simplice Dion, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter l'invité de la rédaction, le professeur Simplice Dion, en entretien avec Constant Maillet. Nous sommes au terme de ce journal, le rappel des titres. La reconversion, deuxième chance pour le militaire et le gendarme en fin de carrière. C'est le thème des journées carrières pour informer les militaires et les gendarmes sur les opportunités qui s'offrent à eux après leur carrière dans l'armée. Une initiative du bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires. La Fédération nationale des coopératives et unions de coopératives des planteurs de palmiers à huile de Côte d'Ivoire annonce une grève à partir de ce lundi 23 octobre au motif de la non-application des prix fixés par l'État en matière de commercialisation des régimes de graines de palme. Et puis à l'international, les États-Unis ordonnent l'évacuation du personnel non essentiel de son ambassade en Irak suite à 5 attaques aux drones ayant visé des bases irakiennes abritant des troupes américaines et étrangères dans l'ouest du pays. Merci de rester sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous de l'info à 8h.
Radio de la Paix, l'info juste. Et sans passion.